Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le Tour du Monde Libertaire, une émission animée par Jean-Pierre Lacanaille, en régie et bien sûr micro ouvert, Monique. Bonjour Monique.
Bonjour.
Vous l'entendez aboyer, elle s'appelle Lucia et elle nous a rejoint dans le studio pour nous pourrir l'émission. Et puis dans le studio qui essaye de la calmer, Serge. Bonjour Serge. Et c'est donc parti pour le Tour du Monde Libertaire, le journal sans Dieu, ni maître, ni publicité de la Fédération anarchiste. Ses amis l'appellent aussi le ML. Un monde libertaire qui fleure bon, les châtaignes, l'oignon doux et le pélardon, accompagné d'un bon verre de chatus, puisqu'il est conçu dans les Cévennes. Oui, je l'ai déjà dit le mois dernier, mais saviez-vous qu'il est maquetté par Philippe dans le Quercy, à Figeac, sous-préfecture du Lot, à Figeac, aux limites de l'Aveyron et du Cantal, ville natale de Jean-François Champollion, déchiffreur des hiéroglyphes et fondateur de l'égyptologie. C'est aussi le pays des noix, des truffes, de l'agneau et du melon du Quercy, à déguster avec un Cahors ou une côte du Lot, suivie d'une vieille prune et enfin repu, s'abandonner à la lecture du Monde Libertaire. Ce Monde Libertaire numéro 1850 de mai 2023, dont la une est l'illustration d'une manifestation du 9 mars 1883 que nous devons à Frédéric de Hennen. Ce Monde Libertaire que vous attendez et qui sera très bientôt dans vos boîtes à lettres si vous êtes abonné, mais qui sera très prochainement à Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, métro Oberkampf, Fil du Calvaire ou République, mais qu'on trouvera aussi dans d'autres endroits, comme par exemple le kiosque Colonel Fabien face au siège du Parti communiste. Coucou les jours heureux! Et puis aussi au kiosque Jaurès, au début de l'avenue Jaurès, et le kiosque Lomière, à la sortie du métro du même nom. Et enfin, comme je vous l'ai dit le mois dernier, à la bibliothèque sociale La Rue, rue Robert Planquette, dans le 18e, métro Blanche, et qui est ouverte les samedis après-midi de 14h30 à 17h30. Tiens, j'en profite pour vous proposer d'ailleurs un petit jeu. Signalez-moi les points de vente que vous connaissez partout, en France et au-delà. En retour, vous recevrez l'expression de mes sentiments distingués, ce qui n'est tout de même pas rien. Alors écrivez-moi à Radio Libertaire, le Tour du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, 75 011, ou envoyez un courrier électronique via le site de Radio Libertaire en précisant pour le Tour du Monde Libertaire. Voilà, bon ben ça c'est un petit jeu amusant, et puis ben voilà, vous êtes là, je vous sens trépignant, trépignante, langue pendante dans l'attente fébrile du sommaire. Alors, que trouvera-t-on dans ces pages? Un dossier intitulé « Nourrir dans la dignité », sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Mais d'abord, en entrée, l'édito de l'ami Bernard. Donnons-nous aujourd'hui notre pain quotidien, père Bernard. Panem et circense, du pain et des jeux, du cirque. Ok, les jeux du cirque ont disparu, restent les jeux. Alors là, mon ami Bernard, je me permets une toute petite parenthèse, nous avons quand même toujours la corrida. Hein ? Bon, mais enfin, admettons. Cette expression donc du poète satirique Juvénal était là pour railler les Romains, esclaves maintenant de plaisirs corrupteurs. L'endormissement des masses par les jeux, on connaît. Juillet 98, 2 964 600 demandeurs d'emploi qui rament ne font pas le poids face à 22 gus en bleu qui courent après un ballon. Et pour le pain? Toutes les 4 secondes, un être humain meurt de faim ou affaibli par la malnutrition. Qui n'a pas eu droit, enfant, au moins une fois à « Finis ton assiette, il y a des enfants qui meurent de faim !» Qu'importe ce qu'il y a dans l'assiette, comment cela a été produit, qui a travaillé pour, qui l'a vendu, qui s'est enrichi, il faut manger, fermons les yeux. Sorti de la Seconde Guerre mondiale, il faut nourrir la population et écouler les stocks de nitrate d'ammonium produits pour les militaires. Fuite en avant pour les engrais chimiques, viendront ensuite les pesticides. Il faut oublier les cartes de rationnement, retrouver le coût de la barbaque à tous les repas et vive l'élevage intensif. Faut que ça saigne bien fort. Sivens, il faut un barrage pour faire pousser du maïs, pour nourrir les bestioles élevées en tas. Un mort, Rémi Fraisse. Sainte-Soline, on en reparlera dans ce monde libertaire, comme on parlera de la mainmise par le capitalisme, l'agro-industrie sur le bien commun qu'est l'eau. Panem et Circense, on ne joue plus, on veut savoir ce que l'on mange, le produire ou connaître celui ou celle qui l'a produit. Pour nous ou avec nous, dignement, et on ne veut surtout plus du capitalisme qui nous gave. Voilà pour cette éditoriale qui donne le ton du dossier dont auquel on causera tout à l'heure. Comme chaque mois, vous vous délecterez de l'incontournable Jean-Marc Reynaud, dit Reynaud le Terrible, et ses faits divers aussi terribles que lui. Ce mois-ci, il y a ZAD et ZAD, où il est question d'un certain Darmanin qui se serait roulé par terre en criant « Je ne tolérerai plus des ZAD, éradiquez-moi ces soulèvements de la terre, arg, ra, lovely !» Pardon, j'en tousse. Sur la même page, M. L'Homme, la bande dessinée de Faber. J'ai bien ri, et vous rirez. Sur le terrain des luttes, le nucléaire et un retour sur les journées anti-nucléaires qui se sont tenues les 31 mars, 1er et 2 avril à Marseille. Vous le savez sans doute, dans le cadre de la campagne contre le nucléaire et son monde, décidée lors de son dernier congrès, la Fédération anarchiste a fait du mois d'avril 2023 un moment fort de cet engagement. Si vous êtes à Paris, je vous invite d'ailleurs à vous informer des prochains événements à Publico qui organisent en ce moment de nombreux rendez-vous sur ce thème. Ces journées marseillaises, nous en avions déjà parlé le mois dernier pour indiquer qu'elles allaient avoir lieu. Et puisque l'EML était précisément consacré à la question du nucléaire, avec pas mal d'auteurs qui se retrouvaient à Marseille. Les échanges qui se sont tenus ont été enregistrés par Radio Libertaire, qui a commencé à les diffuser sur son antenne. D'ailleurs, je crois que juste avant nous, il s'agissait bien de ça. Et c'est un papier donc dans Le Monde Libertaire que l'on doit au réseau Macno. Monique, Serge, vous y étiez, vous, à Marseille, c'était bien ?
Moi, j'ai d'abord la parole à Monique, parce que grâce à elle qu'on a pu passer cette émission aujourd'hui, puis aussi que dans la rubrique événements spéciaux, on accède à l'ensemble de ce qui a pu être enregistré. Donc, Monique, tes impressions ?
Alors, juste pour préciser, la rubrique événements spéciaux, c'est bien évidemment sur le site de Radio Libertaire. Mes impressions, excellente. Les conférences débat étaient passionnantes, il y avait du public, y compris des personnes que les gens qui habitent sur place ne connaissaient pas, les militants sur place ne connaissaient pas. Donc voilà, c'est toujours bon signe quand il y a des gens qu'on ne connaît pas à des réunions publiques. Oui. Et par ailleurs, des personnes qui sont anti-nucléaires de longue date, se connaissant par l'intermédiaire de leurs écrits ou interventions, mais ne s'étant jamais rencontrées, ont pu discuter, et ça, c'était aussi très, très positif.
Et donc, on peut peut-être espérer qu'il ressortira quelque chose de ces échanges, peut-être des écrits, que sais-je ?
Oui, en fait, il y a eu des rendez-vous qui ont été pris entre justement des intervenants. Donc, comme tu l'as dit, certains sont à Publico cette semaine. Et c'était assez fort parce que, à la fois, y compris d'ailleurs, il y a eu les interventions, les questions, beaucoup de questions intéressantes. Et en plus, ça se prolongeait. Enfin, tu as dû certainement assister à des réunions publiques. Des fois, on entend des gens qui parlent de leur histoire. Là, c'était beaucoup plus profond. Et par exemple, j'ai discuté beaucoup avec une dame que je croyais qu'elle était d'origine américaine. En fait, elle était allemande et elle a vraiment, c'est la première fois qu'elle est dans ce lieu associatif. elle était absolument effarée, non pas parce qu'elle entendait, mais par l'absence de réaction. Elle dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible que les gens réagissent pas par rapport à ce qui est en train de se passer. Elle découvrait pas, parce qu'elle a dû connaître le mouvement allemand anti-nucléaire qui a été très fort, mais elle était complètement effarée. Donc j'ai discuté très longuement avec elle, j'ai discuté avec des gens comme ça, après, et quand quelque chose, ça touche les gens, tu le sens par les échanges. Bon, je pense que c'est bien qu'on ait pu faire rencontrer à la fois les intervenants et puis des gens comme ça. Bon, juste un mot pour terminer. Le lieu dans lequel on était, c'est un lieu assez sympathique dans Marseille. Il en reste encore quelques-uns, malgré l'urbanisme galopant, comme un peu partout. Ça s'appelle le Dar. Dans le Dar, ça veut dire la maison. Et il y a une histoire de soutien à un certain nombre de groupes. Et bon, j'en parle parce que c'est un lieu vraiment intéressant. En plus, les diverses associations, dont les groupes de la Fédération anarchiste, sont en train d'essayer de lâcher pour résister, finalement.
Et parce qu'il est menacé, ce lieu ?
Bah, le problème, c'est que, bon, il y a un propriétaire, le propriétaire veut faire du fric avec. Fric, parce que maintenant, un peu partout, comme à Paris, comme ailleurs, l'urbanisme, il faut faire l'urbanisme pour les bourges en dessous, quoi. Donc, il voudrait l'acheter avant que ça monte, etc., avant que ce soit trop tard. Donc, certainement que sur Internet, vous trouverez, si jamais vous voulez le soutenir. D'accord. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je pense que ceux qui sont intéressés pourraient aller plus loin, en tout cas qui sont en région parisienne, ils peuvent aller jeudi, vendredi et dimanche, je l'ai annoncé avant l'émission, ça, j'en parle pas. Et puis aussi, une grande première comme information publique, il va y avoir un petit livre aux éditions du Monde Libertaire, dans lesquels un certain nombre d'intervenants à Marseille ou qui ont écrit des articles dans le ML d'avril. Voilà, un dernier mot, le ML d'avril, vraiment magnifique, il y a eu beaucoup de succès.
Ouais, et donc ce petit livre, c'est le réseau Macno, c'est ça ?
Voilà.
Réseau Macno, on en dit un mot, vite fait ?
Bah oui, le réseau Macno est partout. Non, là, c'est un peu différent pour ceux qui auraient lu le bouquin qu'on avait fait sur l'Ukraine.
Là,
c'est des contributions qu'on a demandées à 7 personnes qui connaissent très bien le mouvement depuis très longtemps. Et en montrant les diverses tentacules de la pieuvre nucléaire, pas uniquement le réacteur, depuis l'origine, enfin toute la filière, et puis le lien entre le civil et le militaire. Je pense que c'est intéressant, d'ailleurs. Tous les gens à qui on a demandé de collaborer, ils étaient ravis, absolument ravis de pouvoir apporter des informations dans un domaine qu'ils connaissent très bien, et ça montre bien tous les mensonges d'État d'aujourd'hui, mais c'est pas d'aujourd'hui malheureusement. Mmh. Voilà, moi je pense que ça va pas.
On l'attend pour quand ce...
En principe, il devrait paraître vers fin mai, début juin.
Fin mai, début juin, parfait.
Alors, juste toute petite précision, fin mai, début juin, si tout va bien, il sera en vente à Publico, mais pas dans toutes les librairies. Il sera en vente uniquement dans des lieux militants, dans un premier temps.
Voilà. D'accord, ouais, d'accord. Bon, de toute façon, on le trouvera facilement. Restez à l'écoute de Radio Libertaire, vous serez informés. Voilà, les prochaines diffusions des échanges de Marseille, c'est
alors
bientôt
dans Trou Noir, nous en avons diffusé 3. Mmh. Je ne sais pas quand sera la quatrième, puisqu'il y en avait 4 en tout. Mmh. Mais, tous les enregistrements sont disponibles de façon brute, c'est-à-dire sans pause musicale, sans rien de changé. Sur le site de Radio Libertaire, vous allez dans l'onglet « Événements spéciaux » et vous trouvez très facilement cet événement-là au milieu d'un certain nombre d'autres.
D'accord, Serge.
30 secondes, juste un complément d'information dans une future émission que j'ai perçue très intéressante. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler du comité central, alors avec un S à central, et ils sont ici dans ces studios, je me crois, le 8 mai. Voilà, et d'ailleurs je crois que le film qu'ils ont pu tourner est passé à Publico.
Je n'étais pas sorti depuis le grand labour. J'attendais que les cris s'espacent et cessent enfin. Entre mourir de peur ou bien mourir de faim, j'ai pris tout mon courage et rampé vers le jour. Tu sais, j'ai survécu dans un endroit bizarre, au fond d'une ambulance à moitié calcinée. Vivant parmi les morts et comme halluciné au coin de ce que fut notre gare Saint-Lazare. Je respire un grand coup et voilà que revient le soleil espéré et que cesse la bruine. Je trouve ce papier qui volait dans les ruines et j'écris cette lettre pour te dire tout va bien. Tout va bien ici, tout va bien. On sent à des riens que la vie revient. Tout va bien, mais oui, tout va bien. Et le quotidien le dit, le maintient. Tout va bien, amour pour ton chien. Pour les Parisiens, pour moi et les tiens. Tout va bien, crois-le, tout va bien. Bonjour, tout va bien. Je t'aime, tout va bien. J'ai marché dans les rues, ton ombre dans la mienne. Les vainqueurs distribuaient la soupe à l'opéra. J'ai tapé dans le bol, tendu par un para, là où nous goûtions les tempêtes wagnériennes. On avait déblayé boulevard des Capucines, vers l'Olympia en ruine. J'ai vu quelques putains. C'est bon signe, je crois, lorsque le vieil instinct, narguant les convenances, remonte des racines. J'ai fait un grand détour pour une barre royale, contempler le charnier où grouillent encore les rats. C'est là où fut, dit-on, abattu Jean Ferrat, et le vent apportait des musiques martiales. Les vainqueurs défilaient, comme hantés par Zitrone. Moi, je ne disais rien, les yeux sur la télé. Ta mère se lamentait, ses opalines fêlées, malgré l'ordre et la paix, la faisait rire jaune. Allez, mon petit Jean, votre quartier est triste et rempli de cadavres en décomposition. Restez donc à dîner, il y a une émission avec Mireille Mathieu. Je l'aime bien comme artiste, mais puisque vous partez, prenez garde aux patrouilles, ils ont parqué les rouges au palais des congrès. Dans le palais des glaces, les pédestins regrets, et au palais des sports, vos chers juifs ont la trouille. Pour revenir chez nous, comment passer la Seine, barbelé sur les ponts, barbelé sur les quais. Près d'un cratère j'ai cru revoir le Mastroquet, où nous nous retrouvions en des heures moins malsaines. Ce bistre déglingué, c'était tout notre empire. Le futur y avait un visage précis. Laïf que nous étions, et aveugles aussi, qui nous imaginions pouvoir prévoir le pire. Adieu notre jeunesse, voilà le temps qui vient, des paillons des œillères et de la pestilence. Le temps des ovations et celui des silences, que l'on ne rompt que pour se redire tout va bien. Tout va bien ici, tout va bien. On s'en a des riens, que la vie revient. Tout va bien, mais oui, tout va bien. Et le quotidien le dit, le maintient. Tout va bien, amour pour ton chien. Pour les Parisiens, pour moi et les tiens. Tout va bien, crois-le, tout va bien. Je t'aime, tout va bien. Adieu, tout va bien. Vivace mon amour, on essaiera de l'être. Tu le seras aussi, comme cette vie qui va, comme les ce brin d'herbe cueillis dans les gravats, que je glisse pour toi dans le pli de ma lettre.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître, et non pas la radio sans Dieu ni maître. La radio sans Dieu ni maître, sans publicité, et vous êtes dans l'émission Le Tour du Monde Libertaire. Et je vous présente donc quelques pages, quelques articles glanés dans ce Monde Libertaire qui va sortir dans quelques jours et que vous retrouverez dans quelques jours. Du coup, c'est drôle. Bon, toujours sur le terrain un des luttes dans ce monde libertaire du mois de mai, le chômage, RSA, logement, une même attaque contre nos droits sociaux. Par-delà la réforme des retraites, c'est un vaste plan antisocial que mettent en œuvre Macron et le patronat. C'est notamment le cas de la réforme de l'assurance chômage, du RSA qui serait versé en contrepartie d'heures de travail gratuites. C'est aussi la loi immigration de Darmanin qui s'inscrit dans la suite des trop nombreuses lois limitant les droits des exilés. Un article de Jean-Jacques Chatelux. Un éboueur, un métier propre. Quand les éboueurs font grève, les orduriers sont indignés, disait Prévert. Il suffit que les poubelles ne soient pas ramassées pendant une petite semaine pour que les bourgeois et les politicards s'indignent et se mettent à chicoter comme des souris, pour ne pas dire comme des rats. Eh bien, ces travailleurs, ces éboueurs méritent le respect, nous dit Justhomme. Et il nous rappelle que, contrairement à ce que disait Sarko en 2008, quand il y a une grève, ça se voit et ça se sent. Page 7, aïe, encore une chronique de l'anarcho-terroriste Jean-Marc Reynaud, alias Tartagueule à la Révo. Il s'agit d'une vieille histoire de pain et de brioche que Macron n'aurait pas bien saisie. Dans les pages Histoire, la traduction par Nestor Potkin d'un long article de Bernd Reiter, publié en anglais par Academia Letters il y a 2 ans. Professeur de sciences politiques, auteur, activiste, Reiter affirme que la démocratie est née dans l'Afrique ancienne et non dans la Grèce antique. Et donc, que la focalisation hégémonique de l'histoire mondiale sur la civilisation s'avère erronée et trompeuse. Cette focalisation, après tout, détourne notre attention collective vers les empires, les royaumes et les dynasties, et ce faisant, occulte une autre histoire, plus pertinente pour la démocratie. L'histoire de l'autonomie, de l'égalitarisme, de la résistance au contrôle de l'État et de la véritable démocratie. La véritable démocratie étant définie ici comme l'autogestion par les citoyens ordinaires et n'étant pas liée au vote et certainement pas aux élections et à la représentation politique. Histoire toujours avec l'histoire de l'anarchisme, des anarchistes et de leurs foutues idées. Les anarchistes existent depuis qu'il y a des raisons de se révolter contre l'inacceptable et l'intolérable. L'exploitation et l'oppression de l'être humain par l'être humain. Mais surtout, depuis qu'il y a des raisons de penser qu'il pourrait en être autrement. Il s'agit d'un livre paru aux éditions Libertaires, un très beau bouquin qui est un ensemble de textes réunis par Wally Rosel qui nous font revisiter 150 ans d'histoire de l'anarchisme et des anarchistes. 3 articles, l'un de Benoît Rey, l'autre de Jean-Marc Reynaud et le troisième de Ramon Pinault, présentent et recommandent ce livre qu'on trouve bien entendu à Publico. On écoute Serge Ujiroyo, La longue mémoire.
Chanson vient de la longue mémoire, pousse ma voix dans l'écho du présent. Si les défaites blessent notre histoire, nos rires larges restent bien vivants. C'est l'avenir tout au long de la route qui vous fait belle et nous fait beau. Jouons nos vies, nos combats et nos doutes contre les gens d'argent et le chaos. Je danserai sur vos chemins à midi hier et de chaque jour. Je poserai tous vos refrains sur la révolte qui dort dans les cours. Des compagnons peindront mes rêves et des compagnes prendront mon chant. J'espère enfin qu'un vent se lève. Jeunes humains, j'attends.
Le tour du monde libertaire sur Radio Libertaire, ce monde libertaire à paraître avec dans les pages internationales Hélène Hernandez qui signe un article intitulé « Justice pour Pinar Selek ». Énième procès pour cette combattante féministe engagée dans de nombreuses luttes. Hélène nous rappelle le parcours militant mais aussi judiciaire de Pinar Selek. En Turquie, son dernier procès a été renvoyé à septembre prochain et le tribunal a confirmé le mandat d'arrêt international. Pinar, c'est le courage, la ténacité, la combativité, la joie de vivre malgré toutes les épreuves. Elle ne se soumettra jamais, elle ne lâchera rien, ni pour elle, ni pour tous les opprimés, conclut Hélène. Israël, Pierre Sommermeyer se demande si, pour éviter la prison, Netanyahou est prêt à assumer une guerre civile. Ukraine, Nestor Potkin a lu pour nous un livre qu'il a sans doute volé, car s'il nous recommande de ne pas l'acquérir, il nous invite à jeter un coup d'œil dessus. Il s'agit de « Moi, Marat, ex-commandant de l'armée Wagner », de Marat Gabidoulin. Instructif, mais à vomir, de quoi renforcer notre antimilitarisme. Pour réfléchir, discuter, douter, les pages réflexion. Les anarchistes et la défense nationale. Ah oui, seconde partie de l'article du mois dernier qui nous disait, Pierre Sommermeyer, qui nous disait ne pas se poser la question de la défense nationale est une hypocrisie, c'est partir de l'idée que ce n'est pas une nécessité. Dans cette seconde partie, Pierre Sommermeyer explore les pistes d'une défense populaire, de désobéissance civile, d'une défense nationale qui ne soit pas nationaliste. Réflexion toujours autour du livre de David Graeber et David Wengrow, « Au commencement était une nouvelle histoire de l'humanité ». Dans cette nouvelle histoire de l'humanité, il s'agissait avant tout pour David Graeber, anthropologue, et David Wengrow, archéologue, d'ébaucher une autre image du passé, de réécrire l'histoire, mais sans traiter directement des problèmes des origines, de l'inégalité sociale, questionnement jusque-là récurrent. Un article que nous devons à André Bernard. Crosse en l'air, en Ukraine comme ailleurs, cet article est un appel. Antimilitaristes, déserteurs, pacifistes, militants contre le SNU, exigeons l'arrêt de toutes les guerres. Mobilisons-nous pour transformer en action nos idées antimilitaristes et anti-guerres. C'est urgent. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a provoqué un choc puissant. Nul ne pouvait prévoir ce scénario catastrophe. Nous espérions une solution rapide du conflit et une mobilisation antimilitariste, une antimilitariste forte dans les pays européens. Une fois de plus, les médias et la propagande impérialiste et capitaliste ont anesthésié les opinions publiques et la mobilisation anti-guerre s'est avérée inversement proportionnelle à l'escalade militaire. Face à l'inertie qui s'installe, il devient urgent de nous organiser sur des bases antimilitaristes et anti-guerre, en créant une force fédérée dans un collectif qui se donne les moyens d'organiser des actions transversales nationales et internationales. Ce collectif pourra rejoindre et compléter les mobilisations d'autres mouvements pour la paix en France et à l'étranger. Ce texte, début d'une réflexion, va nous conduire à l'organisation d'un collectif pour la paix. Nous vous tiendrons informés, entre autres, dans les prochains numéros du Monde Libertaire, de l'évolution de ce projet, nous disent les auteurs. De la barbarie à la civilisation, aller simple ou aller retour. Certains pensent qu'il suffirait de transformer les rapports sociaux de production pour asseoir une société plus juste. D'autres prétendent que la multiplication des technologies vertes pourrait assurer un avenir décent. Autant de cautères sur une jambe de bois. Si l'émancipation est encore à l'ordre du jour, les mesures cosmétiques proposées par les uns et les autres ne serviront à rien. Ce qui est en jeu, c'est l'idée de civilisation, c'est-à-dire une construction réalisée par les classes dominantes prétendument supérieures en vue de défendre leurs intérêts et associée au progrès technologique. Quand ce passage en force des civilisés conduit à des violences plus dommageables que celles des barbares qu'ils dénoncent, au point d'ouvrir la perspective d'un effondrement, il est temps de s'interroger, nous dit Jean-Pierre Tertrais. Transgenre et identité. Après la lecture d'un texte circulant sur Internet intitulé « Les femmes listes », après avoir vu la vivacité des débats qu'il provoquait, si ce n'est l'agressivité, il nous a paru nécessaire, nous disent Pierre et Caillou, les co-auteurs, de réfléchir à cette nouvelle question émergente. Nous nous rendons bien compte des risques que nous prenons, c'est pour cela que nous allons d'abord décliner notre identité. Qui sommes-nous ? Deux mecs âgés, blancs, militants de la sphère libertaire. Nous ne sommes pas des universitaires, juste des prolétaires. L'un menuisier, l'autre photographe. Nous ne sommes des spécialistes de rien. Nous sommes juste un petit bout de l'humanité. Et c'est à ce titre que ce qui se passe et qui en déborde dans le milieu féministe nous concerne. Enfin, les pages culture du Monde Libertaire nous recommandent, sous la plume de Mireille Mercier et Daniel Pinos, Amel et les fauves, un film de Mehdi Himli, sorti en salle le 26 avril prochain. Avec ma mère, nous avons vécu dans la honte et souffert dans la peur, mais plus jamais maintenant. Ce film, c'est notre histoire. Dans ce monde terrifiant des bas-fonds, de la poésie et de la tendresse ressortiront de la vie des prostituées, des alcooliques cassés par la vie, des femmes seules qui se battent pour survivre et des jeunes révoltés qui trouvent dans la criminalité un dernier rempart contre la société cynique. Cette Tunisie que l'on pense connaître, qui nous fait rêver grâce à sa jeunesse libre et à ses réformes démocratiques, mais qu'on ignore en réalité profondément, car ces lieux qui hantent Amel et les fauves ne sont pas couverts par les médias étrangers. Cette cassure sociale est profonde et ce système bafoue la liberté et la dignité des plus démunis. Voilà un des messages que Mehdi Mili, le réalisateur, espère nous faire passer à travers l'écriture de son film. Il s'agit bien là d'un thriller social où les ravages de la drogue et de la violence sont d'une cruauté sans nom. Âpre, très noir, le film dresse un constat effrayant de la Tunisie d'après la Révolution, à travers deux de ses composantes les plus malmenées, les jeunes et les femmes. Un appel à contribution de la revue Fragments qui consacrera un numéro spécial à Michel Ragon pour le centenaire de sa naissance en 2024. Et puis Daniel Pinos nous parle de Carlos Saura, un cinéaste intrépide, curieux et mélomane. Le vendredi 10 février, Carlos Saura, le réalisateur aragonais, est décédé à l'âge de 91 ans. Carlos Saura a rejoint Buñuel, Berlanga et Bardem, les plus grands cinéastes espagnols de notre temps. Avec ses illustres amis, il a créé l'essence du cinéma espagnol pendant la période la plus difficile de son histoire récente, la dictature de Franco et la transition jusqu'à son dernier soupir. Sora n'a jamais, donc jusqu'à son dernier soupir, Sora n'a jamais cessé de filmer et de créer, allant d'un horizon à l'autre. Il dépeignait le monde avec sa caméra, dont il ne se séparait jamais, comme un appendice de lui-même. Intrépide, curieux mélomane, Carlos Sora nous aura toujours surpris. Tout l'intéressait, il a tiré le meilleur parti de toutes ses expériences. Le réalisateur est décédé à l'âge de 91 ans, la veille de la cérémonie des Goyas espagnols, l'équivalent de nos Césars, au cours de laquelle il devait recevoir un prix d'honneur. Enfin, les fiches de lecture. Thierry Maricourt qui nous parle du livre de Philippe Lorrain et Jocelyne Sauvard, Léo Ferré, Il était beau comme la révolte. Thierry nous conseille également Stieg Dagerman, Suite Birgitta, traduction de Philippe Bouquet et Claude Lemanchec. Hugues, lui, nous propose Paul Masson, L'éducation populaire, un phénix toujours renaissant, de la Révolution française au mouvement MeToo, édition du Pavé. Et Hélène Hernandez, enfin, a lu pour nous Jennifer Yézid, Malika, généalogie d'un crime policier. Comme toujours, vous trouverez aux dernières pages la liste des groupes et liaisons de la Fédération anarchiste et les nouveautés de la librairie Publico Librairie, où vous trouverez les ouvrages dont on cause dans le journal. Le monde est quand même bien fait et le monde libertaire encore mieux. Léo Ferré.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment, on l'arrime au port. De justesse, il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la terre, rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole, qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume, cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consument, ô l'ange des plaisirs perdus, aux rumeurs d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus. Qu'un chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis, avec ses pâleurs de rescousse, et le squale des paradis, dans le milieu mouillé de mousse, revient fille verte des fjords, revient violon des violonnades, dans le port fanfare les corps, pour le retour des camarades. Parfum rare des salants, dans le poivre feu des chersures, quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul poissé dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Et toi, fille verte, mon spleen, « les coquillages figurant sous les sunlights cassés, liquide joue de la castagnette, tant qu'on dirait l'Espagne livide, Dieu des granites, ayez pitié de leur vocation de parure, quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure, et je voyais ce qu'on pressent quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang et que les globules figurent une mathématique bleue dans cette mer jamais étale d'où nous remonte peu à peu. Cette mémoire des étoiles, cette rumeur qui vient de là, sous l'arc opaque où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui me... Cette rumeur me suit longtemps, comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sur mon maquillage roux s'en vient battre comme une porte cette rumeur qui va debout dans la rue aux musiques mortes. C'est fini la mer, c'est fini sur la plage, le sable belle comme des moutons d'infini. Quand la mer bergère m'appelle,
h 40 sur Radio Libertaire, vous écoutez le tour du monde libertaire, ce monde libertaire qui sera bientôt dans vos boîtes aux lettres ou à Publico ou ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, kiosque Colonel Fabien, kiosque Jaurès, kiosque Lomière, bibliothèque Larue, enfin voilà quoi, dans quelques jours donc, avec un dossier intitulé « Nourrir dans la dignité ». C'est donc le dossier que nous propose la rédaction ce mois-ci. Hein. Voyons un peu en détail, ce gros dossier, avec d'abord un extrait de La conquête du pain de Pierre Kropotkin. Du pain, du pain, il faut du pain à la Révolution. Un texte qui nous renvoie à la question des luttes actuelles et particulièrement à celle contre la réforme des retraites. Comment mener la grève si l'on manque de pain ? On parle de démocratie, de ceci, de cela. On est là, on bloque, mais les frigos se vident. La misère nous guette, et c'est ainsi, parce qu'il faut un salaire pour vivre. Alors le peuple se lasse, et le cœur serré, la colère au ventre, il retourne à la niche en grognant. « Du pain ! Il faut du pain à la Révolution !» disait Kropotkin. « Que d'autres s'occupent de lancer des circulaires en périodes éclatantes, que d'autres se donnent du galon tant que leurs épaules en pourront porter, que d'autres enfin déblatèrent sur les libertés politiques !» Notre tâche à nous sera de faire en sorte que dès les premiers jours de la Révolution, et tant qu'elle durera, il n'y ait pas un seul homme sur le territoire insurgé qui manque de pain, pas une seule femme qui soit forcée de faire la queue devant la boulangerie pour rapporter la boule de son qu'on voudra bien lui jeter en aumône, pas un seul enfant qui manque du nécessaire pour sa faible constitution. L'idée bourgeoise a été de pérorer sur les grands principes, ou plutôt sur les grands mensonges. L'idée populaire sera d'assurer du pain à tous. Et pendant que bourgeois et travailleurs embourgeoisés joueront les grands hommes dans les parlottes, pendant que les gens pratiques discuteront à perte de vue sur les formes de gouvernement, nous, les utopistes, nous devrons songer au pain quotidien. Nous avons l'audace d'affirmer que chacun doit et peut manger à sa faim, que c'est par le pain pour tous que la Révolution vaincra. «
la vieille cité française existe une race de fer, dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, pour balai ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis.
Ce n'est pas le pilier du bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est un père enfin qui travaille des jours et quelquefois des nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis.
C'est l'artiste, c'est le bohème qui sans souffler rime rêveur un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des habits. C'est la canaille, eh bien j'en suis.
C'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre, à l'œil de hibou, au bras de fer, à main nerveuse, qui sort dont on ne sait pas où, toujours avec esprit bourraille, se riant de votre mépris. C'est la canaille, eh bien j'en suis.
C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons quand sonne sa vingtième année pour entrer dans nos bataillons. Cher à canon de la bataille, toujours il succombe sans cri, c'est la canaille, eh bien j'en suis.
Il fredonne et la Marseillaise, nos pères, les vieux vagabonds, attaquant en 93 les bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille que les trangleurs ont dit depuis, c'est la canaille, eh bien j'en suis.
Les uns travaillent par la plume, le front dégarni de cheveux, les autres martèlent l'enclume et se saoulent pour être heureux, car la misère en sa tenaille fait saigner leurs flancs amaigris, c'est la canaille, eh bien j'en suis.
Enfin c'est une armée immense, vêtue en haillons, en sabots, mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous les drapeaux. On les verra dans la mitraille, ils feront dire à leurs ennemis, c'est la canaille, c'est la canaille.
J'ai lu quelque part que l'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage. Eh bien, figurez-vous que dans son dossier, Le Monde Libertaire nous propose un manifeste pour des actions coordonnées de guérilla jardinière et de résistance à l'industrie alimentaire. Il y a 19 ans, Sème ta zone lançait le petit guide pratique de guérilla jardinière. La betterave rouge et le radis noir vaincront le capital, nous promettait Sème ta zone. Voilà, du jardinage à la cuisine, il n'y a qu'un pas. Réjouissez-vous, petits vénards et petites vénardes, surtout si vous êtes végé. Voici la recette des grenouilles façon Élysée. Façon Élysée reclus, bien sûr. Merci à Nuage Fou qui a retrouvé cette recette dans un numéro de 2018 du Monde Libertaire. Je vous la donnerai pas la recette, faudra acheter le Monde Libertaire et poussez pas quand même. Notre camarade Biscotte, lui, nous emmène sur les chemins des innombrables expériences de jardins communautaires, souvent squattés ou gagnés de haute lutte contre les bétonneurs et ou les pouvoirs publics. Tout commence au XVIIe siècle, des paysans anglais, les Digers, les bêcheurs, se sont mis à occuper illégalement des terres. Apparaît alors le terme de squat, du verbe to squat, s'accroupir. Ce terme de squat désigne l'occupation sans droit ni titre d'un lieu sans l'accord du propriétaire légal. Et donc Biscotte nous raconte l'histoire de ces squats et de ces prises illégales jusqu'à nos jours. Nestor Potkin, qui propose d'installer un silo à grains devant l'Élysée, se paye la FNSEA et son nouveau leader Arnaud Rousseau. Un type bien, Arnaud, un homme de la terre qui voit loin. Pensez, il a fréquenté l'European Business School de Paris. Bien sûr, ce dossier nous permet un focus sur les derniers événements de Sainte-Soline. Tide Rosel nous compte par le menu la manifestation et les groupes, la sociale FA de Rennes et le groupe Henri Laborie de la Fédération anarchiste de Vendée nous en propose une analyse. On trouvera également le communiqué des parents de Serge, lu lors de la soirée de soutien au soulèvement de la terre à Paris le 12 avril dernier. Merci à Bernard qui a retrouvé les paroles d'une chanson de Gilles Servat. Je vous l'aurais bien fait écouter, mais je ne l'ai pas trouvée. Elle s'intitule « Madame la colline ». Je vous propose à la place, et vous ne perdez pas au change, cette très belle chanson de Gilbert Lafaye, « Le chant du voyageur ».
Nous avons eu les mêmes rêves, aimer le vent dans les bambous, les bois roulés le long des grèves, les cerfs volants, le sable doux. J'ai chanté l'eau de la rivière, les bras tendus des arbres morts. Chercher la source et la lumière, l'orange rose de l'aurore. Quelques enfants dans une ronde m'ont fait revoir toute ma vie, le plus grand chapiteau du monde, peut-être aussi le plus petit. Nous avons eu les mêmes rêves, toucher le ciel, aimer l'amour, les nuits d'été gorgées de sève, les gestes tendres au point du jour. J'ai chanté l'or et la poussière, haï la guerre et les tambours. Il y a tant de beaux mystères, je ne veux pas devenir lourd. Il y aura d'autres rêveurs pour dire les belles aux lèvres douces, les volets bleus, la lande en fleurs, les rouges gorges aux nids de mousse. Nous n'étions pas toujours poètes, mais voulions vivre à l'unisson. Ne pleurons pas nos soirs de fête, le temps des rires et des chansons. Voici la nuit, le vent se lève, demain sera un autre jour. Rien ne s'en va, suivons nos rêves, tout vole et danse tour à tour. Et si le givre se dépose sur nos chemins de voyageurs, nous qui aimions les mêmes choses, restons ensemble par le cœur. Le givre se dépose sur nos chemins de voyageurs, nous qui aimions les mêmes choses. restons ensemble par le cœur.
Radio Libertaire, vous écoutez le tour du monde libertaire, ce monde libertaire à paraître dans quelques jours. Et dans ce monde libertaire, décidément, c'est la fête à la FNSEA qui nous apprend, donc ce monde libertaire, que la fédération départementale, la FDSEA du Morbihan, au prétexte que la Confédération paysanne appelait à la manif de Sainte-Soline, voudrait bien lui tordre le cou. La Confédération paysanne serait un ramassis de décroissants simplement égoïstes qui ont le ventre plein et qui voudraient faire croire qu'il ne faut pas se préoccuper de nourrir la planète pour revenir à une agriculture vivrière. Les auteurs du texte demandent que la Confédération paysanne soit exclue de toutes les instances officielles du département, régionales et nationales, et qu'elles ne perçoivent plus de subventions publiques. Jean-Pierre Tertrais nous rappelle ce qu'est la FNSEA, issue des marmites d'extrême droite où mijotait la corporation paysanne du régime de Vichy. Il nous raconte aussi ses méthodes de voyous. Ramon Pinault revient sur son article du mois dernier de l'exploitation en milieu bio en Andalousie. Craignant que son article soit perçu comme une critique des cultures bio, il précise ses propos dans ce nouvel article.
Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén.
Je l'avais gardé pour la fin. Un article de Jean-Pierre Tertrais intitulé « Une société paysanne ». Juste, je vais désannoncer quand même cette chanson « Andaluces de Jaén », c'était Paco Ibáñez. Un petit clin d'œil à Ramon Pinault et à son article tout de même. Et oui, parce que hein, ces olives, à qui elles appartiennent, ces olives, elles appartiennent à ceux qui les travaillent. Voilà. Alors, donc, je disais que j'avais gardé l'article de Jean-Pierre Tertrais intitulé « Vers une société paysanne ?» Au regard de la relation harmonieuse entre les chasseurs-cueilleurs et les milieux dans lesquels ils évoluaient, la naissance de l'agriculture a été perçue par plusieurs scientifiques comme le premier faux pas de l'humanité. Au fil des millénaires suivants, les masses paysannes, dont la longue histoire est celle de leur dépossession, seront contraintes de servir les intérêts des classes dominantes, malgré de nombreuses révoltes pour la défense de biens communs. Depuis l'industrialisation de l'agriculture par les apprentis sorciers du capitalisme, en imposant un seul type de rationalité économique, a engendré un tel massacre du social comme du vivant que, paradoxalement, une société paysanne alliant émancipation humaine et préservation des capacités nourricières pourrait constituer la seule chance de surmonter le chaos actuel. Bonjour Jean-Pierre Tertrais.
Bonjour.
Alors, merci de nous donner quelques minutes pour Radio Libertaire, quelques minutes de votre temps. Alors, toutes et tous, paysannes et paysans, ce pourrait être le mot d'ordre ?
Tous, ça paraît difficile, mais certainement que je partage l'idée de notamment Sylvia Pérez-Vitoria, qui est bien connue à Radio Libertaire, et qui disait effectivement que sans une société paysanne nombreuse et forte, l'humanité n'a probablement pas beaucoup d'avenir.
Ouais.
Parce qu'effectivement, on a l'histoire de l'agriculture a été effectivement une histoire de, comme il a été dit tout à l'heure, de la dépossession, donc par les seigneurs, par la noblesse, par l'État, et avec une accélération considérable à partir de l'agriculture, bien sûr. Et on connaît aujourd'hui donc les dégâts considérables de cette agriculture capitaliste, les dégâts sociaux, les dégâts humains, les dégâts écologiques. Et on sait qu'on est dans une impasse totale. Et donc, voilà, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Si on conteste cette société industrielle, qui est une impasse dramatique, oui, pour les générations qui viennent notamment, eh bien, il faut se tourner vers un autre type de société. Or, en dehors de la société paysanne, je ne vois pas du tout quel type de société on pourrait aller.
Oui, je suis pas loin de penser la même chose, mais tout de même, vous commencez l'article en disant la naissance de l'agriculture a été perçue comme le premier faux pas de l'humanité. Alors
oui. Alors ça, l'expression n'est pas de moi, effectivement, elle est de scientifique, notamment d'anthropologue.
Ouais.
Et effectivement, l'histoire de... Alors, c'est compliqué, on ne pourra pas expliquer ça en quelques minutes, mais effectivement, l'apparition de l'agriculture, c'est... on parlait tout à l'heure de la relation harmonieuse entre les chasseurs-cueilleurs et le milieu dans lequel ils évoluaient. C'est-à-dire qu'il y a simplement un prélèvement, le prélèvement minimum de quoi subsister. L'agriculture, c'était en fait... La naissance de l'agriculture, c'est le constat fait par des individus. Alors, on ne sait pas exactement, il y a eu plusieurs foyers d'agriculture en même temps, ou presque en même temps, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais ce qui est certain, c'est que l'homme, progressivement, a pris conscience de sa capacité à modifier le vivant, à créer son alimentation, et donc, l'avenir n'était pas inscrit.
Oui.
Il est évident que le 21e siècle n'était pas inscrit dedans, mais l'homme pouvait assurer sa production alimentaire et donc a commencé à transformer l'environnement à une vitesse qui s'est accélérée progressivement au cours des siècles, notamment avec la révolution, avec deux étapes importantes, la révolution industrielle il y a deux siècles et la société de consommation de masse aujourd'hui. Et effectivement, donc cette transformation de l'environnement donc s'avère aujourd'hui dramatique, puisqu'on on flirte aujourd'hui avec les limites physiques de la planète. Et en même temps que la naissance de l'agriculture, c'est aussi l'élevage. Et là, il y a beaucoup d'arguments qui ont été émis, notamment sur la proximité entre l'homme et l'animal, et donc le développement important de germes. Quand on parle aujourd'hui de la pandémie,
oui,
je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, de scientifiques qui ont alerté sur, effectivement, il y a la grippe aviaire, enfin, il y a, depuis 30-40 ans notamment,
oui,
il y a une résurgence de
la peste porcine, il y a eu un tas de choses. Oui.
C'est inscrit dès le néolithique. Quoi.
Dès le néolithique.
Oui.
Mais c'est incroyable. Parce que moi je pensais que, en fait, tous ces problèmes étaient dus à la concentration des élevages.
Ça a été accéléré avec la concentration des élevages et avec la mauvaise santé des... Mais effectivement, dès le
début de l'élevage, on a commencé
à
avoir des problèmes. Alors justement, c'est cette agriculture, à partir du moment où elle commence vraiment à dériver sérieux, on dit que c'est après la Seconde Guerre mondiale, mais on peut peut-être même parler de l'après-première.
Oui. Alors c'est difficile effectivement de tracer une ligne parce qu'il n'y a pas de l'agriculture mondiale n'est pas d'ailleurs Marcel Mazoyer parlait des agricultures mondiales.
Ouais.
Il y a des agricultures, il n'y a pas eu une agriculture. Donc effectivement, il y a eu déjà au fil des siècles, des millénaires, il y a eu effectivement la domination, les seigneuries, etc. Et après déjà le capitalisme avec plusieurs étapes, notamment aux États-Unis, effectivement dès le début du 19e siècle, il y a déjà des dégâts considérables.
Quoi. Ouais.
Et les raisins de la colère, effectivement. Mmh. Et après, donc, il y a une nouvelle, donc, avec effectivement la terre considérée comme un support inerte, donc avec la domination de la chimie, de la mécanisation, de la motorisation et plus tard de la génétique. Mais en Europe, bon, ça a lieu un peu plus tard, effectivement. C'est avec les fameuses lois de modernisation de l'agriculture qui, en France, sont arrivées dans les années 60. Donc à la demande de Gaulle, et avec donc deux polytechniciens, Jacques Rueff et Louis Armand, qui ont mis au point donc cette loi de modernisation, qui a consisté, bien sûr, comme aux États-Unis déjà depuis un demi-siècle ça existait, à favoriser l'agrandissement des parcelles. Parce qu'effectivement, le capitalisme ne peut se concevoir que de manière que sur des grandes échelles. Évidemment, l'artisanat ne l'intéresse pas. Et donc, il fallait éliminer les petits agriculteurs en leur rendant les conditions de vie de plus en plus difficiles. D'ailleurs, c'est même dans le rapport, textuellement dans le rapport de Louis Armand et de Jacques Rueff, il fallait infliger, je le dis de mémoire, hein, je n'ai pas le texte devant les yeux, il fallait infliger aux agriculteurs un niveau de vie sensiblement inférieur à celui des autres catégories sociales. C'est quand même assez extraordinaire.
Ah oui, oui, d'accord.
Carrément. Et donc, il fallait rendre la vie impossible aux petits agriculteurs pour que les plus grands s'emparent de plus en plus de terres. Et effectivement, ce qui fait qu'on est passé de... Alors, on était déjà passé de 5 000, presque à peine 6 millions d'exploitations avant 1900. On était passé à 2,5 millions en 1950. On est aujourd'hui à moins de 400 000. Quoi.
Ah oui, carrément. Ouais. Donc, on est vraiment en danger.
Voilà.
Par contre, avec d'immenses exploitations, des usines à bestiaux,
voilà,
etc.
Des fermes usines, oui.
Ah ouais, c'est absolument gigantesque. Alors, quand même, dans votre papier, vous nous expliquez tout ça. Là, la machine est devenue complètement folle parce que, en fait, on se retrouve presque dans des systèmes où on avait des gros propriétaires terriens comme ça a été le cas. En Espagne, et où là finalement on retrouve un peu ce procédé, puisque on augmente la distance, dites-vous, entre celui qui travaille la terre et celui qui la possède. C'est-à-dire que on a carrément des sociétés d'affaires qui achètent les terres. Par exemple, je crois que c'est dans votre article que j'ai vu ça, des investisseurs chinois, voilà, avaient acquis 1700 hectares, plus de 1700 hectares de terres
dans l'Indre. Oui, dans le département
de l'Indre. Ouais. Alors, comment on peut faire reculer cette machine infernale?
Alors, c'est difficile, oui, c'est sûr que pour passer à une société paysanne, il y a plusieurs combats à mener, notamment deux combats parallèles, parce qu'on l'a considéré, c'est difficile de répondre à cette question, mais même l'idéal révolutionnaire s'est fait un peu piégé, par l'imaginaire du progrès technique. Pendant longtemps, et encore pour certains aujourd'hui, un pays civilisé, c'est un pays qui n'a pas de paysans.
Ah, c'est incroyable.
Et donc, cet imaginaire du progrès technique qui allait libérer l'homme, qui allait émanciper l'homme. Quoi. Or, quelqu'un a dit, je ne sais plus son nom, mais quelqu'un a dit, il faudra se souvenir un jour que le fait majeur du XXe siècle, ce n'est pas la naissance du prolétariat, mais la disparition de la paysannerie.
Oui, d'ailleurs, ça a été dans le même temps, quasiment.
Il a fallu liquider l'agriculture pour effectivement prolétariser. Donc ça a été, donc il y a eu enfin on rappelle l'histoire, hein, la seigneurie d'abord, mais après les enclosures en Angleterre, la privatisation des parcelles, qui a effectivement mis au chômage des petits producteurs, des paysans, et comme par hasard, l'industrie naissante avait besoin de main d'œuvre, et donc
ils sont devenus salariés.
On l'a canalisé, voilà, il a fallu prolétariser l'agriculture pour alimenter la main d'œuvre industrielle. Et donc effectivement, le progrès entre guillemets, c'est en fait la soumission de l'agriculture paysanne à l'industrie. Donc, il y a d'une part l'industrialisation de différents secteurs qui se sont multipliés, et il y a aussi l'industrialisation de l'agriculture elle-même.
Alors en face, on a des rebelles quand même. On a ce qu'on qualifie, comme vous le dites, de néo-paysans ou de paysans alternatifs.
Oui.
Alors ça peut être le chemin pour nous sortir un peu de l'ornière.
Oui, parce que bon, il y a toujours eu des luttes, les luttes paysannes, effectivement tout au long de l'histoire, qui ont été comme les luttes ouvrières d'ailleurs massacrées bien sûr par la police et l'armée. Mais depuis, c'est vrai qu'on arrive, on disait tout à l'heure, on arrive aux limites physiques de la planète, mais pas seulement. Je crois que le système actuel, il est au bout du rouleau. Je pense que même les politiciens aujourd'hui ne sont pas si sereins qu'ils le laissent paraître.
Ouais.
Parce qu'ils savent que maintenant, ce sur quoi repose le capitalisme, la croissance économique, elle ne sera plus possible.
Ouais, et puis là, ça commence à se voir.
Voilà. Et donc, il n'y a pas que. Et il y a aussi donc une partie de la population qui commence à, même si ça part depuis les années 70-80, on sait qu'il y a un décrochement entre... depuis les années 70, il y a des études aux États-Unis notamment qui montraient un décrochement entre l'augmentation, donc le progrès technique, l'accélération, l'augmentation du volume de production de biens et le bien-être. Jusque dans les années 70, il y a eu effectivement des progrès. La machine à laver, par exemple, bon, c'est vrai, c'est l'automobile au départ, bien sûr, il aurait fallu après, mais il y a eu des progrès. Et donc il y a eu une augmentation du bien-être. Et à partir de là, et c'est ce que on revient au test d'Ivan Illich, qui dit que quand un outil au sens institution par exemple, se développe, il y a un moment où on atteint un seuil de production, seuil de contre-productivité, je veux dire. Et c'est-à-dire qu'à un moment où les inconvénients du système dépassent les bénéfices. Et là, les gens se rendent compte aujourd'hui qu'ils sont pas heureux. Ils sont pas plus heureux avec des smartphones, avec des ordinateurs, avec des voitures, quoi. Parce qu'il y a des contre-productivités, les embouteillages pour les voitures, l'addiction pour les écrans, etc. On pourrait allonger la liste. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui n'adhèrent plus aux valeurs du système.
Oui, mais alors, tous ces gens qui n'adhèrent plus et qui essayent de trouver des alternatives, ce sont ceux que notre cher président qualifie de Amish.
De Amish, voilà.
Alors, voilà. C'est de la propagande, c'est de l'aveuglement, c'est du hors-sol.
Les propos de Macron.
Ouais.
Alors, ça peut être en partie de la bêtise.
Oui.
Mais c'est surtout une hypocrisie parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, ils sont complètement piégés. La preuve, c'est qu'il a effectivement qualifié d'amis ce comportement. Et quelques mois après, il parlait d'une sobriété parce qu'on on a une crise énergétique.
Une sobriété qui consiste à nous inviter à passer à 19 degrés,
mais qui sera une sobriété qui sera réservée aux pauvres, évidemment.
Évidemment.
Mais je crois que le problème, je disais tout à l'heure, les classes politiques ne sont pas sereines, dans la mesure où ils savent très bien qu'ils sont devant un dilemme. Où on tente de sauver la planète. Donc on réduit la croissance économique, c'est-à-dire on saborde le système. Ou alors on préserve le système, et donc on tente la croissance économique, même si elle est plus possible, et on bousille la planète. C'est-à-dire si vous laissez, il y a une injonction contradictoire qui est donnée aux citoyens, c'est continuer à consommer pour maintenir le système en place, mais ne consommez pas trop pour ne pas bousiller la planète. C'est incompatible.
Ouais.
La croissance économique est incompatible avec la préservation des équilibres des écosystèmes. Ils ne sont effectivement pas à l'aise du tout, parce qu'ils savent que dans un avenir relativement court, il va y avoir des oppositions. Là, on pourrait parler effectivement des conflits par rapport aux grands projets, ce qu'on appelle grands projets inutiles et imposés, qui vont se multiplier, que ce soit
les bassines.
les bassines, que ce soit les méthaniseurs, que ce soit les lignes à haute tension, les autoroutes, les projets d'autoroutes, les parcs immobiliers, les stades surdimensionnés. Voilà, le système capitaliste, par exemple, il en a besoin de ces projets-là. Or, les gens ne les acceptent plus pour des raisons sociales, environnementales, humaines.
Ouais. On le voit sur une ville comme Paris ou enfin l'Île-de-France avec la préparation des Jeux Olympiques, c'est terrifiant. Ouais. Enfin, les gens qui sont à Saint-Denis notamment croulent sous le béton et surtout s'attendent à une pollution extrême pendant et après les Jeux Olympiques.
Ouais, ouais.
Donc, on a l'impression que tout de même nos dirigeants continuent quoi qu'il arrive. Et c'est encore pire parce que, comme tu le disais, ils savent que ça va dans le mur.
Oui, oui, complètement. Mais ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas renoncer.
Donc il faut qu'on les arrête.
Ils ne peuvent pas renoncer au système. C'est pas possible.
D'accord.
Et là, il y a un chiffre, il y a un phénomène qui est important, qui montre l'opposition entre l'industrialisation et le retour à une société paysanne. C'est les surfaces de terre qui disparaissent. En France, un seul chiffre. En France, c'est l'équivalent d'un département tous les 7 ans, qui disparaît en termes de terres agricoles. Ça ne peut pas durer longtemps, effectivement.
Effectivement, oui. Mais alors, là, vous nous dites aussi que tous les circuits qui s'inventent actuellement, les circuits courts, les AMAP, les ventes directes, tout ça, ne suffira pas à faire société. Donc, il y a quelque chose en plus à inventer.
Oui, c'est passé Et effectivement, il y a une telle force effectivement de la FNSEA qui dirige tout. Hein,
On va en reparler de la FNSEA parce que t'as signé un article par ailleurs.
Ouais. Et là donc effectivement il y a le problème du foncier.
Ouais.
Là on bute sur le problème du foncier et là il y a j'ai lu beaucoup de livres très intéressants sur l'agriculture, mais ils évitent ce problème parce qu'effectivement il n'y a qu'un nombre très limité de nouveaux paysans qui peuvent s'installer. C'est volontairement limité par les instances, justement, avec la FNSEA notamment. Et donc, comme la Confédération paysanne le prône, effectivement, je pense qu'il faut peut-être viser l'installation peut-être d'un million de paysans, peut-être un peu moins, peut-être plus, on ne sait pas. Mais une société paysanne telle que moi je la conçois, ou telle que Sylvia Pérez-Vitoria le conçoit, c'est certainement 10-15%, 20, peut-être 25-30% de la population agricole.
On en est loin.
On en est très loin, puisque, alors, on en est relativement à l'histoire de l'humanité, pas très loin. Là, on en est, nous, à 2,5%. Ça paraît énorme, mais de revenir à 20-30%, ça paraît énorme, ça paraît même impossible pour beaucoup de gens. Or, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la proportion de la population agricole par rapport à la population active, c'était 36% encore.
Oui, donc...
36%, c'est pas impossible d'y revenir.
C'est pas inatteignable.
Je pense qu'on n'aura pas le choix que d'y revenir, peut-être pas à 36%, mais 20-25%, je sais pas, c'est difficile à dire, mais une proportion non négligeable, effectivement. Et là, on se heurte au foncier. Et là, il y a effectivement une révolution sociale. C'est quand il faudra mettre effectivement ces agri-managers dehors, avec les méthodes de la FNSEA précisément, ce ne sera pas facile. Quoi. Donc là, il y aura forcément une confrontation. Il n'y aura sans doute pas beaucoup de dialogue possible. Quoi.
Et dans votre papier, là, vous parlez également de vaincre le mépris séculaire qui a humilié des générations de ploucs, de péquenauds, de cutéreux, dont le patois attestait de l'obscurantisme.
Oui, oui. Oui, là, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est toute cette opposition entre l'industrie et l'agriculture. En fait, la trajectoire de l'humanité s'est faite avec une modernité triomphante qui a donc porté de plus en plus haut l'industrialisation et qui a effectivement éliminé l'agriculture. Éliminé l'agriculture, nous avons traditionnelle, paysanne, quoi, pour l'industrialiser précisément. Quoi.
D'accord. Alors, le retourne, mais je voudrais quand même qu'on puisse dire un mot de cette FNSEA et notamment de la Fédération départementale du Morbihan.
Oui.
Parce que là, vous signez un article extrêmement sévère hein, sur la FNSEA.
Là, oui, puis à la fois... à la fois, ça confirme ce qu'on a dit aussi jusqu'à présent,
oui.
C'est-à-dire que la FNSEA ne peut pas se permettre de faire de concessions. De faire des concessions dans l'attribution des terres et de faire des concessions même idéologiques, c'est-à-dire de remettre en cause, l'agrandissement des exploitations, de remettre en cause la vocation, la prétendue vocation exportatrice de l'agriculture, c'est-à-dire l'idéologie de la surproduction, parce que c'est bien ce qui s'est passé avec notamment en France avec la loi de modernisation dont je parlais tout à l'heure dans les années 60, où au départ officiellement c'était pour que la France puisse se nourrir,
ouais.
Ou que l'Europe un peu plus tard, l'Europe soit autosuffisante. Or, elle l'a été assez rapidement.
Oui,
l'objectif réel, c'était pas celui-là. C'était bien de, comme le capitalisme débouche forcément sur l'impérialisme, c'était forcément sur conquérir les marchés extérieurs. Et donc, il fallait torpiller absolument les agriculteurs vivrières des pays pauvres pour imposer, avec les subventions européennes, évidemment, pour imposer nos produits, quoi.
Voilà, et c'est comme ça qu'on crée des pays en cours
voilà.
De
développement. Il ne s'agissait pas
de
souveraineté alimentaire de l'Europe, il s'agissait de casser les agricultures vivrières des autres des pays pauvres. Quoi.
D'accord. Et alors, là c'est pareil, vous pensez qu'il va y avoir vraiment une grosse bagarre là, entre la Confédération et la FNSEA, par peut-être le biais du juridique, tout simplement, mais tout de même, de demander à ce que la Confédération paysanne soit rayée finalement de la carte, c'est un peu fort, non?
Oui, je pense que le pouvoir politique ne peut pas se permettre, effectivement, ce serait trop gros, quoi.
D'accord.
Ce serait trop gros. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que la FNSEA va continuer à utiliser ses méthodes de voyous, effectivement, parce qu'elle contrôle tout. Elle contrôle les chambres d'agriculture, elle contrôle le Crédit Agricole, elle contrôle les conseils municipaux des petites communes, elle contrôle la SAFER, qui, entre parenthèses, était une instance chargée de réguler le foncier et d'empêcher depuis déjà presque un demi-siècle, et d'empêcher les agrandissements. Et la SAFER, au contraire, soit elle ne sert à rien parce qu'elle est largement dépassée, soit elle est complice de tous ces
ouais,
agissements.
Ouais, ouais. En fait, ça fait plus penser à la mafia, quand même, cette...
C'est carrément, oui, hein? Oui, c'est carrément la mafia. Et là, je conseille aux auditeurs de lire le livre dont j'ai parlé, là, effectivement, le livre de Gilles Luneau.
Ah oui, alors oui, alors moi je l'ai pas cité parce
c'est
que
pavé, hein.
L'idée c'est quand même que les gens achètent le Monde Libertaire hein, pour on va
oui,
pas
oui,
tout leur
oui,
dévoiler
oui.
Quand même. Ben, je vous remercie beaucoup et puis à très bientôt sur notre antenne.
Oui, merci.
Au revoir.
Bonne soirée.
Maintenant que je ne suis plus ministre de l'agriculture, paysanne, paysan, je vous dis merde. Pendant 3 mois, j'ai essuyé vos doléances. Je vous ai donné du fric pour vous permettre de planter des pommiers. Je vous ai donné du fric pour vous permettre de balancer vos pommes non calibrées à la décharge publique. Je vous ai donné du fric pour vous permettre d'élever des veaux. Je vous ai donné du fric pour vous permettre d'abattre des vaches. Je vous ai donné du fric quand vous n'en aviez pas assez. Je vous ai donné du fric quand vous en aviez de trop. Alors maintenant, j'en ai plus. Plus rien. C'est la dèche, la ruine, la faillite. J'ai des dettes. C'est la raison pour laquelle on m'a foutu à la qualité de la vie. Ou alors là, j'ai vraiment l'air d'un con. Paysanne, paysan, vous m'avez fait chier. Le mot n'est pas trop faible. Avec vos putains de cheptels, décimés par la sécheresse, l'orage, les inondations, la pluie, le vent, la grêle, le givre, les giboulées, l'aquilon, le zéphyr, la trahamontane, l'anticyclone de mes Açores, la myxomatose, la peste, la rougeole, les hémorroïdes, l'angine de poitrine, les puces, les poux, les morpions. Alors maintenant, vos bestiaux, ils ont qu'à crever. Parce que moi, j'en ai plein le cul. Plein le... Là. Qu'est-ce que c'est que ce besoin d'avoir 200 vaches par tête de pipe? Alors qu'avec une seule vache, vous auriez assez de lait, assez de fromage, assez de beurre pour faire vos tartines de confiture. Et qu'est-ce que c'est que cette manie d'élever 500 poules pour récolter 6 000 œufs par jour? alors qu'avec 3 œufs, on peut faire une omelette pour 6 personnes. Mais vous êtes fous de la tête, les mecs. Est-ce que j'ai 2000 teckels dans mon appartement? Chier, merde! Ah oui, oh, on a voulu jouer les exploitants agricoles, les gentlemen farmers, les gens gabins! Avec des moissonneuses, batteuses, scieuses, tronçonneuses, chieuses, déouffeuses, dégueuleuses! On empruntait au Crédit Agricole pour se faire enculer par le même Crédit Agricole! Et vas-y que je te retourne la terre pour planter 3 cateaux de blé au centimètre carré! Avec 1 tonne d'insecticides par épi de blé! C'est plus des tartines qu'on bouffe au petit déjeuner! C'est de l'aspirine effervescente! N'arrêtez pas de vous plaindre. Toute l'année en train de vous plaindre. On se lève à 4h du matin. On se couche à minuit. On n'a plus le temps de dormir. On n'a jamais de vacances. Restez couchés! Où est le geste du semeur Auguste? Élargissant son bras jusqu'aux étoiles, au moment crépusculaire, assis sous un portail, bordé la queue. Écoutez-moi, si j'étais à votre place, hein, j'aurais 1 bique, 2 poules, 1 coq-nain et Pénardos. Tout ça dans mon petit enclos à moi. Et si la coopérative agricole veut m'acheter quelque chose, quinquette! Oui, je sais, vous allez me dire, oh oui, mais alors dans ce cas-là, les citadins, ils vont crever de faim? Et alors que ça veut vous foutre? Je répondrai premièrement que les citadins mangeront un peu moins parce qu'on bouffe trop, hein. Regardez, moi j'ai des chances de slip tous les jours. Et s'ils ont l'impression de crever de faim, ils ont qu'à faire comme moi, 1 bique, 2 poules, 1 coq-nain avec un petit escabeau. Et Pénardos. Oui, je sais, vous allez me dire, oui, mais alors, avec un raisonnement comme ça, ben, il n'y aura plus de ville. Et alors, ça vous manque la ville, vous y allez jamais. Quand par hasard, vous venez 1 fois par an pour venir nous faire chier dans les embouteillages pendant le salon de l'auto, alors vous êtes unanime à dire la même chose. Ah, ben t'as vu, en ville, hein, ils vivent tous comme des cons, hein. Ah, ben nom de Dieu, hein. Oh, ben alors, ils sont toujours pressés, hein. Et puis la ville, ça pue, hein. Ah, ben qu'est-ce que ça pue, hein. Ah, ben ça pue, hein. Ah bah ça pue, hein.
Oui, on sait que ça pue, merde. Même quand vous venez, ça pue 2 fois plus.
On sait que ça pue, tout pue, maintenant. La ville pue, les gaz d'échappement, la campagne pue, l'insecticide, tout pue, voilà. Comme disait Mao Tse-tung, tout pue, voilà. Comme la ville serait agréable s'il n'y avait plus de citadins, comme la campagne serait agréable s'il n'y avait plus de pezzoï. La France serait jolie s'il n'y avait plus d'un côté les citadins et de l'autre côté les pecnos. Toujours en train de se plaindre, que ce soit à la ville ou à la campagne, on entend toujours le même refrain. Les jeunes ne veulent plus travailler la terre, hein. Vous savez, Boucher, les jeunes ne veulent plus travailler la terre. Mais c'est pas qu'ils veulent plus travailler la terre, les jeunes. Les jeunes, c'est qu'ils veulent plus travailler. Ah, c'est tout. Ils n'ont pas envie de vous ressembler. Quand ils voient votre réussite, ils ont envie d'échouer. Les jeunes de la campagne foutent le camp à la ville pour vivre dans des communautés? Parfait. Les jeunes de la ville foutent le camp à la campagne pour vivre dans des communautés? Parfait. Même qu'ils se croisent, c'est très bien. Parce qu'on sait très bien que dans une communauté, il y en a un qui travaille pour nourrir les 10 autres. Un tour de rôle, chacun son tour, 1 jour sur 10. Alors quand les 52 millions de Français auront compris l'absurdité du travail quotidien, quand la France sera devenue une immense communauté de 52 millions de gens, on travaillera 1 jour sur 52 millions! Bande de cons! Ça vaut le coup d'essayer, non? En vérité, je vous le dis... Ah non, pardon, non. Non, j'ai des renvois. La révolution sera feignante ou ne sera pas. Un jour viendra, et ça sera le jour qu'on attendra le moins. Où, mû par un instinct biologique et populaire, toutes les travailleuses et tous les travailleurs de France resteront au plus mal à l'aise. Pénardos. La tasse de café dans la main gauche, le transistor dans la main droite, en train d'écouter le ministre de l'Industrie qui dira « Ben alors, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a un mouvement. Et le plan d'art, là. Et montant de tous les plumards de l'Hexagone, une seule voix lui répondra, le seul cri qui soit vraiment révolutionnaire. Alors les croissants, ça vient? C'est la lune.
Radio Libertaire 89.4. Et bah, c'est la fin de cette émission, le Tour du Monde Libertaire. On peut quasiment même envoyer le générique de fin pour les quelques mots d'adieu. Nous voici à la fin de ce Tour du Monde Libertaire. On se retrouve lundi 29 mai à 18h sur le 89.4 Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité de la glorieuse Fédération anarchiste. Merci à Serge, merci à Monique, merci à Jean-Pierre et merci à vous, auditeurs et auditrices, d'être et de rester à l'écoute. Et n'oubliez pas, ni Dieu, ni maître.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête?
Il y a des noisettes dans ce macreux.
Il y a des raisins, des rouges, des blancs,
des bleus.
Les papillons s'en vont par eux.
C'est le mille pattes, mais ses chaussettes.
Les alouettes sont des aveux.
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend?
La terre de la tête,
l'écho répète,
c'est très joyeux.
Et la radio chante un petit air radieux.
Des parapluies restent.
Les cannes s'en vont
au bal musette.
Levez la tête,
les amoureux.
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend?